Génération Prestart. Génération Prestart. Try again. Try again.
Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Try Again, la partie rétro de Génération Prestart. J'espère que vous avez passé un très bon moment en compagnie de nos amis de Select News Slot, que l'on salue d'ailleurs, Clotilde et Vince. Et puis aujourd'hui, on se retrouve non pas autour d'un jeu comme d'habitude, mais autour d'une thématique qui nous sera proposée par notre petit Ellie. Bonsoir Ellie.
Salut à tous.
Et puis évidemment, comme d'habitude, à côté d'Ellie, Martin et Lionel. Bonsoir Martin.
Yo,
salut.
Et bonsoir Lionel. Donc voilà, l'émission est annoncée. Avant de rentrer dans le vif du sujet par une musique comme vous en avez l'habitude, je lance tout de suite les petites annonces. On a notre forum qui vous attend comme d'habitude. On a mis plein de photos. Et puis évidemment, la grande nouveauté de ces dernières semaines, c'est le podcast où vous pouvez déjà retrouver pas mal d'émissions, dont la number one sur GoldenEye. Donc voilà, et en fin d'émission, je suis d'humeur généreuse et culture gamers aussi d'ailleurs, puisque on vous offre des CG codes. On lance la musique les gars, vous êtes d'accord?
Bah c'est parti, hein. Comment?
On part dans Opération Wolf et Asphalt pour se mettre dans l'émission. C'est parti.
M57 Radio.
Try again. Voilà, nous entrons dans notre Insert Coins qui va être aujourd'hui présenté par Martin. Mais avant ça, je vous encourage à venir non seulement à écouter l'émission, mais si vous m'entendez, c'est que vous nous écoutez, mais à venir participer sur le chat, puisque nous, on est très souvent connectés et on écoute très souvent aussi vos anecdotes. Vous avez aussi des choses à nous apprendre. Donc n'hésitez pas à chatter avec nous. Martin, c'est à toi.
Ah bon ?
C'est toi qui lance ?
Si, c'est moi, je déconne.
C'est sympa ça, merci.
Bon alors comme vous l'avez compris, ce soir Ellie nous a décidé de nous parler de l'Amstrad. Alors l'Amstrad, ça remonte à des temps anciens, on va dire, pour nous vieux geeks et gris. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent pour qui ce serait pas mal d'essayer de refaire un tour d'horizon de ce qu'on avait à l'époque sur le marché du jeu vidéo, aussi bien sur les consoles que sur les micro-ordinateurs. Alors je vais faire ma petite confession du jour. Moi l'Amstrad, je connais pas. Alors est-ce que je suis le seul autour de cette table à qui c'est le cas ?
J'ai pas commencé à jouer par l'Amstrad, loin de là. J'avais un voisin qui l'avait, donc des fois j'allais jouer avec mon petit voisin, mais pas plus.
Lionel ?
Moi j'ai pas été non plus bercé trop par cette période Amstrad. J'étais plus à l'époque J'étais un peu plus loin, bon je connaissais un peu la NES et tout ça, mais Amstrad ça m'est un peu plus étranger j'avoue. Mais heureusement pour nous, on a un grand spécialiste.
Tout à fait, on va apprendre plein de choses ce soir. Donc moi quand j'ai discuté avec pas mal de gens pour préparer l'émission, chacun avec sa petite anecdote, genre « Ah non, moi j'ai commencé sur Amiga, ah non, moi c'était sur Atari, mon premier micro-ordinateur, ah non, moi c'était à l'école avec Bill, avec ça. » Donc du coup, en fait, j'ai fait quelques recherches et le marché, il était vraiment vaste et super complexe. Pour faire simple, les consoles étaient en train de passer d'une génération à une autre, c'est-à-dire que les consoles 8 bits allaient arriver. Et donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il y avait avant la NES comme console de salon populaire en Europe,
je parle. Le fameux Pong, la fameuse...
Non, une console.
La ColecoVision.
Ouais, bien joué, une vision ici. Autrement.
Ouais, attends, on était trop petits.
Ben, l'Atari 2600 par exemple et l'Intellivision. Donc voilà, rien que pour ça.
Moi, ce que j'aime bien à cette époque, c'est que les noms ils sont super sympathiques. Il n'y a que des chiffres derrière.
Et alors, justement, qu'est-ce qu'il y avait comme micro-ordinateur avant l'Amstrad qui venait juste de sortir de cette période. C'est-à-dire qu'avant que l'Amstrad arrive sur le marché du micro-ordinateur, qu'est-ce qui était en fin de vie selon vous?
Le Minitel.
Il a continué à vivre et durant longtemps.
Je sais pas, ouais, j'avoue que je suis un peu ignorant de l'histoire.
Ben, moi, je vous dirais que le Commodore 64 était un micro-ordinateur 8 bits, était en train il était vraiment en fin de vie quoi, en fait il avait à disposition un lecteur de cassettes vu qu'à l'époque on pouvait aussi stocker des données sur des cassettes. Il y avait surtout en France ce qu'on a bien connu, surtout moi à l'école, le TO7 et le MO5 qui étaient donc des micro-ordinateurs de Thomson qui étaient hyper populaires chez nous parce qu'ils ont été budgétisés par l'État pour justement apprendre dans les écoles des bases de programmation et des choses comme ça. Donc c'est des machines qui étaient des micro-ordinateurs qui servaient à faire du jeu mais aussi à faire plein d'autres applications. Et donc en France on nous en a rabâché plein.
Moi j'ai vu ça à l'école.
Ouais.
Donc au début on t'apprenait avec des petites fonctions comment tu pouvais faire.
Il y avait la disquette en carton.
Alors il y avait différents formats. Alors attends, faut que je reprenne tout mon bordel. Le TO7, il avait un clavier sensitif, un crayon optique, un lecteur de cassette.
Ah, le lecteur optique, ça ouais, on s'en servait à l'école primaire, ouais.
Mais vous aviez de la chance, moi j'ai pas eu tout ça à l'école primaire.
On faisait des tests de lecture, tu sais. Alors c'était pas forcément folichon. Hein.
Et sinon, les autres micro-ordinateurs qui sont arrivés, on va dire en concurrence à ce moment-là avec l'Amstrad, ben ça a été surtout le MSI, Atari ST et l'Amiga. Donc en fait, c'était pour les plus populaires. Hein. Je résume vraiment de manière très 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 sommaire. Donc qu'est-ce qui a fait que l'Amstrad a réussi à fonctionner et à s'implanter sur le marché? Et ben moi je dirais d'abord un côté discount à cause de son créateur Alan Michael Sugar, un anglais. Vu que, en fait, si on reprend d'où vient Amstrad, en fait, le nom Amstrad vient de la contraction du nom Alan Michael Sugar Trading. Donc, en fait, Amstrad, c'est juste une contraction du fait de son nom, une société qui a été créée en 68, une société anglaise qui, au début, faisait pas mal de choses dans la hi-fi, et qui, au final, s'est dit, tiens, un jour, moi, je vais m'attaquer sur le marché du micro, parce qu'il y avait un autre homme avant qui avait réussi à faire ça avec le ZX81, un ordinateur qu'on pouvait acheter, et qu'on pouvait même acheter en kit, et donc, du coup, il avait un prix discount. Et donc, l'Amstrad, s'il a réussi à fonctionner, c'est parce qu'il était distribué dans les hypermarchés, à des prix défiant toute concurrence entre guillemets par rapport au reste du marché, parce que il proposait des branchements simples, on pouvait l'acheter avec moniteur ou sans moniteur, parce que oui, les micro-ordinateurs dont j'ai parlé, ce sont essentiellement des gros claviers avec des fois de cassettes, de disquettes, mais on n'avait pas toujours, par exemple, le basique pour programmer qui était fourni avec, on n'avait pas non plus de moniteur. Donc du coup, sa force de l'Amstrad, c'est que c'était super simple par rapport au branchement et que d'un coup, tout était fourni avec.
C'est pratique quand même.
Ouais, c'est quand même pas mal.
Le prix de lancement était quand même avec le moniteur couleur de 4490 francs, soit environ 675 euros. Et sans le moniteur, ça a été aux alentours de 290 francs, soit 456 euros. Donc c'est quand même assez conséquent.
Ouais, c'est conséquent parce qu'il faut rappeler quand même que si on regardait en francs constants, la somme serait bien plus énorme aujourd'hui.
Avec l'inflation.
Avec l'inflation et tout ça. Donc il faut dire que 4490 francs de l'époque, on peut le convertir en francs aujourd'hui, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Je pense que ça serait plus proche, à mon avis, des 1000 euros aujourd'hui ou des 1500 euros. En gros, le prix d'un gros ordinateur aujourd'hui que le prix d'un ordinateur bas de gamme ou d'une console.
Ce qu'il faut aussi voir, c'est que l'Amstrad, en fait, il a connu plein d'évolutions au fur et à mesure des années et très très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont vite monté en puissance, en capacité mémoire et que, à la même époque, pour les tarifs consoles, c'était plus ou moins dérisoire parce que l'Atari 7800 qui arrivait en juin 86 était vendu aux alentours de 275 euros. La NES, un peu plus tard, en 786 à 225 euros, donc moins cher que l'Atari, et la Master System début 87 à environ 260 euros. Mais en réalité, la Master System est arrivée un peu plus tard sur le marché français, parce que c'est une autre histoire, que si un jour on a pas le Master System, je vous expliquerai. Mais voilà. Donc du coup, coup, si on compare le prix des micronateurs et des consoles, forcément les consoles sont moins chères, mais elles permettent que jouer au jeu. Alors que micronateur, on peut faire la programmation, servir pour les salles de musique, faire des démos.
Du traitement de texte.
Voilà, donc plein d'autres choses, mais qui nécessitaient d'autres bordels. Enfin, je veux dire, d'autres compétences. C'est pas aujourd'hui comme on a PC Mac qui est installé. À l'époque, les micros, c'était un gros merdier, si je puis me permettre, avec plein de standards et rien qui était uniformisé.
Ouais, ouais. Tout à fait. Et puis donc, en même temps, il n'y avait pas de disque dur, il n'y avait rien non plus. Fallait mettre une disquette pour mettre le système. Après, fallait mettre le disquette
pour le basique. Et donc, l'Amstrad avait le basique intégré. C'était ça aussi qui est une de ses forces. Parce que basique, sinon, tu le payais environ 50€, je crois.
D'accord.
Donc, c'est pas rien.
Et bien, après cette belle introduction, on va s'écouter un peu de musique. Je vais lancer Alien et 1943. Et on se retrouve après avec notre spécialiste pour le Versus Mode. Et notre spécialiste ce soir, c'est Ellie. A tout de suite.
M57 Radio, première
radio numérique de Lorraine.
Première radio numérique de Lorraine.
Versus Mode Round 1. Ça fait du bien de s'écouter des petites musiques qu'on connaît pas. Moi, je découvre un petit peu.
Ça pique les oreilles.
Ces sons, ça pique les oreilles, mais c'est sympathique.
Moi, j'aime bien quand ça pique les oreilles.
Il y a un bon côté rétro.
Ah,
là,
c'est très rétro, on est en plein dedans.
Voilà,
là.
Donc avant de passer la parole à Ellie, je continue mes petites pubs. Toujours pour le Facebook, on n'a pas assez d'amis. Je pleure, j'ai pas assez d'amis. N'hésitez pas à venir me demander comme ami. Je suis sous le nom de Nelly Try Again. Comme ça, vous pourrez plus facilement trouver la page Try Again. Et vous pourrez suivre toutes les annonces en ce qui concerne Try Again, mais aussi Génération Prestart et toutes les choses qu'on fait en association avec les partenaires. Voilà, Ellie, c'est à toi.
Alors, cette partie versus mode, je vais vous parler de l'Amstrad un petit peu. Je vais commencer par quelques caractéristiques techniques. Donc, il possède un processeur Z80 à 4 MHz. C'est un peu l'équivalent de 8 bits, un peu comme la NES ou la Master System, même si c'était pas aussi performant, à mon point de vue quand même. Alors la mémoire vive, c'est-à-dire la RAM, il y avait 128 kilos, et la mémoire morte, la ROM, il y avait 48 kilos. Voilà, ça c'est modeste, mais c'est toujours ça.
C'est deux choses qu'il faut pour jouer à un jeu, les deux choses participent, la mémoire vive et la mémoire...
Si, il faut les deux, et en fait selon les versions après ça change. Par exemple, pour le premier Amstrad qui sortit, c'était le CPC 464. Il avait 4 pour 4 MHz et ensuite il avait 64 pour 64 kg de RAM. Donc le nom correspondait toujours à ça.
D'accord.
Après ça a évolué aussi, les micro-ordinateurs et tout se sont séparés de ces histoires de mémoire morte et de mémoire, enfin il y a certains types de mémoire qui ont disparu de l'utilisation actuelle, puisque en fait les ordinateurs sont devenus beaucoup plus puissants, gèrent beaucoup plus de choses et ont moins besoin de stocker les informations.
Parce que mémoire morte, moi j'avais jamais entendu.
Ouais, c'était quelque chose de l'époque, maintenant ça on parle plus vraiment de mémoire morte.
D'accord.
Donc voilà quoi.
C'est comme les langues mortes.
Maintenant, c'est remplacé par les disques durs qui sont très spacieux et où ils stockent des données sur disque dur. Donc, c'est un peu différent.
Alors, sur l'Amstrad CPC 6128, il y avait un lecteur de disquette de 3 pouces qui était intégré au clavier et qui était au format 278 kilos. Voilà.
Ça me paraît loin, les disquettes.
Pourtant, en plus, c'était connu, des plus vieilles disquettes. Elles n'étaient pas compatibles avec nos PC actuels.
C'est des disquettes plus petites. C'était des 3 pouces. C'était pas les 3 pouces.
C'est quasiment la même taille.
C'est les 3 pouces après, les 3 pouces 5. Et avant, il y avait les 5 pouces.
Je parle pas de stockage. Hein. Quand je dis plus petite ou plus grande, je parle de la taille physique.
La taille physique. La taille physique. Les 3 pouces, c'était un demi-pouce de moins que les 3 pouces et demi.
Alors, donc cet ordinateur était capable d'afficher 16 couleurs simultanément. Voilà, bon, c'est pas énorme, mais ça suffisait déjà parce que c'était tout en couleurs.
Ça vient aussi de son nom parce que c'est PC, ça veut dire Color Personal Computer.
Exactement.
Et je crois que ça changeait, enfin, le nombre de couleurs affichables changeait en fonction de la résolution affichée à l'écran.
Ouais, mais là c'est le maximum.
Ouais, hein, c'était le maximum, 16 couleurs.
Et ça a aussi évolué
et ça
selon les versions.
Jusqu'à 4 selon qu'on agrandissait la résolution.
Ça a évolué selon les versions.
Et ça évoluait,
à l'époque, il y avait aussi des moniteurs monochromes.
Oui.
C'est-à-dire comme la Game Boy, par exemple, noir et vert, quoi.
Ouais, vous pouviez, ouais, c'est ça, on pouvait acheter le CPC, on pouvait l'acheter avec un écran monochrome,
qui
était à 2500, je crois, ou un truc comme ça, ou 2900, ouais. Et il était à 4500 francs.
4500, ouais, c'est ça.
4500, avec l'écran couleur, en fait.
Ouais. Moi, je l'ai eu qu'en 87, il est sorti en 85, en fait.
Donc, j'ai eu en 6128 en 85, quoi.
Je l'ai eu donc en 87, on a payé à peu près dans les 4000 francs, je crois, de mémoire. Ouais, ça date, on l'a fait.
Enfant pourri gâté.
On l'a fait à la FNAC, c'était pour moi et mon grand frère. Donc c'était cadeau commun, ça regroupait. Ouais, c'est vrai que c'est pas donné maintenant qu'on y repense. Mes parents, ils voulaient pas nous acheter une console, ils se disaient non, t'as un ordinateur parce qu'on va faire de la programmation, ça va être un petit peu plus instructif.
Un micro-ordinateur.
Très crédible.
Parce que les vrais ordinateurs à l'époque, ça prenait des salles entières.
Bah alors, est-ce que effectivement, t'as appris à programmer ou est-ce que t'as travaillé sur ton micro-ordinateur
de t'as fait que jouer.
En fait, oui, parce qu'il y avait des disquettes et à un moment, on s'est rendu compte que l'intérêt d'avoir un ordinateur, c'était de pouvoir copier les jeux. Donc, on mettait la disquette, elle chargeait sur l'ordinateur, on remettait une autre disquette vierge et on mettait le jeu dessus. Donc c'est pas vraiment de la programmation, mais ça peut être
en fait, en gros, t'as appris à copier des jeux. Bravo, Eli. Effectivement, ouais. Donc c'était très instructif, j'avoue.
Voilà. On pouvait aussi recopier du texte pour refaire un jeu. Bon, après, une fois qu'on éteignait l'ordinateur, il sauvegardait rien. Donc c'était un petit peu
dommage. Ce que moi j'avais fait avec le MSX. Hein.
Ouais.
Mais je peux pas raconter ça. J'ai pas envie de faire mon Eli cette semaine.
Ça, c'est des jeux. Ça mettait beaucoup de temps. Il fallait surtout pas se tromper.
Selon les micro-ordinateurs. Parce que sur l'instant, un micro-ordinateur, tu pouvais revenir en arrière sur une ligne de code que tu avais tapé. Tu pouvais pas refaire appel à ce qu'il y avait vraiment dans la mémoire. Donc si tu faisais une erreur, c'était foutu, il fallait que tu retapes tout. Ah. Alors que des fois, tu pouvais te balader et choisir, corriger l'erreur. Quoi.
C'était dur dans le temps. Mais en même temps, c'est pareil pour les jeux. Ils étaient super hard. Mais au moins, quand on a commencé là-dessus, quand on fait des jeux plus modernes qui sont un peu difficiles, on s'accroche. Quoi.
Ouais, c'est vrai que le niveau de difficulté nécessitait quand même une maîtrise absolue, je dirais presque, du contrôle de son personnage.
À l'époque, on a réussi à finir le jeu, moi et mon frère, mais c'était pas la majorité, hein, loin de là. On était contents quand on arrivait à passer quelques niveaux.
Tu jouais sur quoi à l'époque, clavier ou t'avais le manche à balai dans les mains?
Les deux. Alors moi j'aimais bien le manche à balai. Alors on avait des manches à balai qui craquaient et... avec des boutons, il y avait 4 boutons, mais c'était le même.
Ah, les pads chez Ellie, toute une histoire.
Ah ouais, mais ils ont servi et tout, et puis c'est énervant.
Toujours comme un burger prêt à être rempli.
Bon, quand on allume l'ordinateur, on a l'écran bleu, avec écrit en jaune dessus, et pas de temps de chargement pour l'allumer. Direct, on a ça. Par contre, quand on met le jeu, il y avait quand même pas mal de temps de chargement pour les disquettes.
Déjà, t'avais aussi des chargements en cassette ou pas?
Moi, j'avais pas de.
Non,
de
sur le
6128, il n'y en avait plus.
Non, il n'y en avait plus, c'était déjà les disquettes.
Mais c'est pas plus mal.
Oui, c'est pas plus mal. Parce qu'en fait, Par contre, ce qui était sympa pour les gens, enfin pas à l'époque des cassettes, c'est que c'était des cassettes comme vous avez dans votre, si vous aviez une chaîne IFI à la maison, vous faisiez une copie de votre cassette directement dans la machine, quoi.
Ouais, ouais. Même format, les boîtes pareilles. D'ailleurs, j'en ai trouvé récemment en occasion, je les ai achetées, j'ai négocié âprement. Et j'ai acheté Rastan Saga et 1943.
Tu t'es fait payer pour les prendre, oui.
Non, j'étais avec lui, j'ai vu la scène. Il a essayé de négocier un truc de fou.
Mais j'ai réussi à faire baisser le prix.
Après, les problèmes des cassettes, c'est aussi, c'est comme tout, et des disquettes, comme toute bande magnétique, ça s'abîme, ça se détériore.
Aujourd'hui, tu peux tout retrouver en MP3 et tu peux tout faire passer avec une clé USB pour lancer tes jeux Amstrad version cassette. Si tu regardes bien sur un site qui s'appelle Amstrad Today, tu peux. Il y a des trucs de fou.
Et donc.
En tout cas, moi, pour en revenir au temps de chargement, le seul petit souvenir que j'ai d'avoir joué avec mon petit voisin, c'est quand justement on attendait le temps de téléchargement du jeu, qu'on était à rien de pouvoir y jouer et que ça plantait, quoi.
Mais tu jouais sur quoi ?
Temps de chargement ? Ah oui, c'est chiant.
Je sais plus sur quelle machine exactement c'était, mais.
Mais sur Amstrad, ça arrivait pas.
Ça arrivait pas ?
Non, je plaisante.
Je suis pas sûr, hein.
C'est une grosse blague.
Si, c'est déjà arrivé. Ou alors ça
je
chargeait.
Je sais que c'était Amstrad parce que j'ai le souvenir des crocodiles, mais alors après,
ouais.
Dans le détail, je pourrais pas
des
dire.
Chances, ouais. Ensuite, on va passer un petit peu au jeu parce que l'intérêt de l'ordinateur c'était quand même beaucoup les jeux vidéo. Alors, un de mes premiers jeux c'était Alien. Alors, je me souviens de ce jeu dont on a entendu la musique tout à l'heure, qui était fait par Electronic Stream Software, qui est sorti en 86. Il avait une ambiance de folie parce que vous avez entendu la musique avant, ça fout un peu les chocottes. Le jeu en lui-même est relativement moche.
Il faut préciser que t'avais combien, 7 ans, 6 ans?
Ouais, je devais avoir 8 ou 9 ans déjà à l'époque, non?
Non, mais ça. La honte.
Non, mais je disais, on est immergé dedans.
On a compris que t'avais peur devant les jeux vidéo. C'est bon.
Alors, en fait, c'est un shoot'em up crosshair. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en fait qu'on dirige un viseur, littéralement crosshair en anglais ça veut dire viseur, donc on dirige cette petite cible et dès qu'on va sur un alien, on doit tirer et pas le manquer, sinon il vient vers nous, il nous bouffe et on perd un des personnages. En fait c'est le jeu vidéo qui est tiré du film de Alien 2.
Aliens.
Et alors ça se passe dans une base de la planète Archeon et on est Ripley, on dirige une équipe, donc 6 personnes en tout, Ripley inclus,
et Stop Eject aussi
avec Ripley, Gorman, Hicks, Bishop le robot, il y avait Vasquez, il y avait Burke. Donc en fait il y avait les touches de clavier pour zapper de l'un à l'autre, il fallait appuyer sur B pour Burke, sur H pour Hicks, etc.
Honnêtement, le mec il s'appelle Burke, mais franchement je le Burke. C'est quoi ton nom?
J'avais une prof de je te jure, j'avais une prof de maths qui s'appelait comme ça. Je te promets.
Anecdote personnelle.
J'espère qu'elle nous écoute ce soir. Bonsoir,
moi, je suis
Madame Burke.
Totalement contaminée par la Alice Touch. Hein. C'est un truc de fou. Hein.
Alors, on l'a renommée cette Touch alors.
Ouais, c'est clair.
Donc, pour en revenir au jeu, il était vraiment pas facile parce que toutes les pièces se ressemblaient. Elles étaient numérotées. Alors, chaque fois qu'on avait un personnage, on savait dans quelle pièce il était, combien de munitions il avait, combien d'énergie il avait encore. Et donc, on se baladait. Dès qu'on voyait une porte, on pouvait aller dedans avec la barre espace pour entrer. Il y avait des interrupteurs, on pouvait tirer sur l'interrupteur, après on pouvait plus utiliser la porte, c'était un peu con, mais. Et de temps en temps, on trouvait des aliens. Et ce que j'ai pas dit, c'est que les pièces tournaient en rond. On pouvait tourner indéfiniment en rond dedans. Et qu'il y avait plusieurs portes souvent, donc pour s'y retrouver, c'était très compliqué, il fallait impérativement faire un plan.
Est-ce que t'as d'autres jeux qui ont utilisé à peu près le même game system plus connu ?
Ouais, je reviendrai après, je parlerai bien de Opération Wolf. Opération Wolf, par exemple.
Dans les Shining Force, t'avais pas la même chose, par exemple, tu pouvais tourner comme ça dans les donjons ?
On verra peut-être ça après,
je sais pas,
les garçons.
Ouais, hein, tout à l'heure, ouais.
On écoute Bad Dudes versus Dragon Ninja, que Ellie nous a proposé, et on se retrouve ensuite pour le reste des jeux.
L57 Radio. We'll be right back.
Try again.
Try again.
Voilà, et après cette petite pause très japonisante, on va, je crois, continuer à parler un petit peu d'aliens. On va avoir du mal un petit peu à se replonger dans ton ambiance peur et glauque. Et... Mais bon, vas-y, ouais. À toi de jouer.
Donc pour l'époque, hein, dans ce contexte-là. Hein. Donc j'avais beaucoup joué, beaucoup insisté, c'était très difficile, surtout que quand on voyait un alien, on avait tendance à tirer avant qu'il soit pile poil sur la cible, et si on visait pas la tête, on avait du mal à l'abattre. Donc c'était très difficile, je me répète.
Mais c'est quoi la différence par rapport à un shoot'em up ? C'est que tu vois le...
Alors là, en fait, tu diriges la cible. Tu la diriges où tu veux, et après t'appuies pour tirer, tout simplement.
D'accord.
Ouais, c'est l'ancêtre des Doom-like, je dirais presque.
Oui, des Doom-like, ouais, voilà, ouais. C'est ça que je voulais dire. Tout
ouais,
à
dans
fait.
Un shoot'em up, tu vas diriger par exemple un petit vaisseau.
Oui, mais j'ai mal choisi mon terme. Ah, je voulais parler de Doom-like.
Il faut que shoot'em up et crosshair, ça soit vraiment collé. Hein,
d'accord.
Ça va ensemble à ce moment-là. Donc pour revenir à l'ambiance du jeu, il y avait l'électrocardiogramme de chaque personnage qui défilait. Et dès qu'on avait un mort, il y avait son petit écran qui se brouillait. En bas, l'électrocardiogramme devenait plat.
Ah, ça c'est pas mal ça.
Gore. On faisait avec les moyens de l'époque à l'époque, mais s'ils avaient de l'imagination, ça passait bien. Au bout d'un moment, quand on faisait du scoring, quand on tuait pas mal l'alien, quand on progressait, il y avait les plombs qui sautaient. Alors tout était noir dans quasiment toutes les pièces. J'en ai trouvé quelques-unes où il y avait encore un peu de lumière, il y avait un générateur. Mais alors là, du coup, le jeu est super difficile. Dès qu'on tirait, on voyait quand même la pièce illuminée, mais comme les munitions sont limitées.
Ah, donc il y avait quand même des jeux de lumière et tout, c'était bien fait.
Ah ouais, ouais, tu te retrouves dans le noir.
Et c'est vrai que t'as dit quelque chose d'assez intéressant. En effet, c'est que à l'époque de ces consoles, enfin de ces consoles et de ces micro-ordinateurs plus ou moins dédiés dans un sens aux jeux vidéo, on avait quand même. C'est un peu ce qu'on reproche aujourd'hui aux jeux vidéo, c'est un manque d'ingéniosité, un manque de... Enfin, je veux dire, ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour faire les jeux, ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens pour faire montrer des choses à l'écran, parce que, bah, comme tu l'as dit, 16 couleurs affichables sur une palette de 4000, maintenant on en a je sais pas combien de millions d'affichables, de milliers d'affichables sur je sais pas combien de millions, et ils trouvaient toujours des astuces ou des choses pour faire passer certains éléments de jeu.
Certaines
choses aux joueurs qui sont inoubliables, et aujourd'hui je dirais on se repose beaucoup sur l'aspect visuel et sur tout ça, et on laisse un peu l'ingéniosité au placard. De même, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, on bossait sur des cartouches sur des disquettes qui faisaient 720 kilos, quoi. C'est-à-dire, les gars, ils arrivaient à faire tenir un jeu complet en compressant, en rusant, en faisant des trucs. Maintenant, aujourd'hui, on leur a donné aux programmeurs des CD, il leur en fallait 10. On leur a donné un DVD, il leur en faut 4. On leur donne un Blu-ray, dans quelques années, ça se trouve, il en faudra de nouveau, je sais pas combien. C'est un peu, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'ingéniosité a plus sa place dans le jeu vidéo.
Bon, quoi. Des fois, il fallait deux disquettes.
Ce côté ingéniosité, tu le trouves encore sur la scène démo qui se sert de ces vieilles machines comme l'Amiga ou l'Atari ST, où là, les démo makers continuent de s'en servir pour faire des démos.
Ouais, pour voir finalement qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Voilà, pour tirer les trucs de la machine et montrer ce qu'on peut faire dessus.
Il faut vraiment que je vous montre le jeu Alien. Parce que, bon, Martin, toi, t'avais déjà un petit peu joué.
Ouais.
C'est quand même sympa, même, mais faut se plonger dedans, quoi. Donc il y avait différents adversaires, en fait il y en avait 4 en gros. Il y avait les aliens classiques, il y avait les œufs. Dès qu'il y avait des œufs, on pouvait les dégommer, ça faisait quelques points, 5 points par œuf.
Et est-ce que si tu laissais l'œuf éclore, il y avait des bestioles qui en sortaient?
Non, elles viennent aléatoirement, en fait.
D'accord.
Elles peuvent passer d'une pièce à l'autre, elles te surprennent.
Quelle horreur, c'est bête.
Aussi apparaître dans une pièce où t'as un personnage que tu contrôles pas. À ce moment-là, il faut vite aller sur appuyer sur la touche du personnage. G pour Gorman, par exemple. Vite, Gorman est en danger. G, hop, je suis chez lui et je peux battre l'alien. Fallait se dépêcher.
Enfin, franchement, l'idée du jeu là que tu me décris, ça, je trouve ça classe, quoi.
Et
je trouve que le principe est vraiment sympa, quoi. Après, j'ai pas vu le jeu. Faudra que tu me le montres, effectivement. Mais
ouais. Si on agissait pas assez rapidement, la personne est capturée. Et si on est vite dans la salle avec un autre, on pouvait le délivrer. Mais faut être rapide et à proximité. Donc, alors les salles étaient numérotées. Il y en avait, je sais plus, 255, quelque chose comme ça. Alors moi, je me suis amusé à faire un grand plan avec chaque pièce. C'était très difficile parce que les pièces, tu tournes en rond dedans. Tu sais pas exactement. où ça va dans quel sens. Donc
faut que tu notes tes mouvements à chaque fois, quoi, pour être sûr de pas être planté donc sur ta carte en fait.
Ouais, c'était une
255, c'est un chiffre clé de
l'hexadécimal.
Faudra qu'on essaye. Je sais pas si t'as encore tes sources, Ellie, mais faudra qu'on essaye de mettre sur le forum les plans que vous êtes capable de faire pour réaliser les jeux. On en avait déjà parlé un peu avec Martin.
J'ai fait un
mais
joli
je crois
plan.
Que ça pourrait intéresser les gens, je crois.
Je
parce
pourrais mettre
que
le lien. Il y a
de
pas de souci.
Qui sont capables de faire.
Si tu veux, tu pourras passer une fois la maison et faire une photo des plans.
Ah, on fera ça.
Ouais, on fera ça une fois. Je sais pas qu'on fera. Puis voilà.
Ouais, le mien il est sur le net, de toute façon je mettrai un lien, il n'y a pas de souci. Et quand on arrivait dans la salle de la reine, il y avait les reines justement, et plein d'œufs partout. Alors fallait dégommer la reine. Moi j'ai toujours eu un bug d'affichage graphique, on la voyait pas tout à fait bien, mais je pense que c'était pas volontaire. Et quand on butait la reine, il fallait plusieurs coups, il y avait une autre après. Donc après c'est du scoring, hein.
D'accord.
C'est ça qui compte.
T'avais pas de fin au jeu en fait, tu es indéfiniment le boss quoi.
Je crois, ouais. J'ai pas réussi à avoir de fin.
T'as pas réussi à le finir, on va dire.
Alors je suis passé après la salle. Mais après la salle, il y a des portes de sortie piège où tu meurs, donc c'est pas forcément intéressant. Donc j'ai fait le tour, j'ai pas trouvé.
Il y a pas de source sur le net comme pour aujourd'hui les nouveaux jeux pour te renseigner sur ça, s'il y a vraiment une fin ou pas ou...
La solution est dit.
Non, mais je crois que c'est du score uniquement. Hein,
d'accord.
À ce moment-là.
Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui étaient comme ça où ça loupait en score.
Ouais, où tu recommençais le jeu depuis le début aussi.
Voilà, t'avais pas de vraie fin quoi. Tu continues à jouer jusqu'à ce que tu puisses plus scorer et que tu crèves quoi.
Voilà, c'est ça, la fin alors du jeu, c'est ta mort.
C'était game over quoi, ouais. Tu es mort, mais il n'y avait pas de fin programmée pour avoir une petite thématique, un petit message quoi. Ça n'existait pas.
C'est très perturbant ça pour les joueurs d'aujourd'hui, je crois.
Super frustrant.
Bah, tu sais, des fois quand tu finissais un jeu, que t'avais fini le jeu et que t'avais à peine une image, si t'étais chanceux avec un game over en dessous.
Mais c'est déjà ça. Au moins, tu as le contentement d'avoir tué ton boss final.
Je peux faire mon anecdote de la semaine.
Vas-y.
Alors, ma plus grande frustration de joueur quand j'ai terminé un jeu, c'était Time Park sur Super Nintendo. Parce que quand tu termines le jeu, t'as juste un écran avec un petit bonhomme qui arrive. Merci d'avoir joué.
Mais sur Amstrad, c'est pire.
Tu t'as passé des heures et des heures sur le jeu. Et pour les jeux de cette époque, en 95, tu te mangeais juste un écran noir avec un écriteau jaune. Merci d'avoir joué.
Et en plus, il était dur ce jeu. Parce que moi, j'ai pas réussi à le finir.
T'as juste envie de prendre le jeu, de le jeter par la fenêtre et de faire plus jamais un truc pareil.
Bah, moi, pas. Parce que moi, sur Amstrad, souvent, quand tu finissais le jeu, t'as juste un écran de fin avec du texte.
Attends, pour 95,
pas toujours.
Tu te rends compte qu'il est quand même sorti après Donkey Kong Country, t'imagines la fin de Donkey Kong Country, t'imagines après la fin de ça?
Ouais.
Ah non, tu peux pas, je suis désolé. Là, il y a un gouffre, là je peux plus. Hein.
Bon, un autre jeu marquant de mon enfance, c'était Target Renegade. C'est un jeu par Taito qui est sorti en 88. On pouvait jouer à deux d'ailleurs.
Dont on écoutera, je crois, la musique à la fin.
Oui, ce sera un remix en fait.
D'accord.
Bien sympathique, on verra ça tout à l'heure. Donc il y avait Renegade qui est sorti, Target Renegade c'est le 2 si on veut, et ensuite il y a eu Renegade 3, mais le meilleur c'est le 2.
Il y a eu des portages sur d'autres choses de ce jeu-là.
Oui, il y a eu sur NES et Master System. Hein.
Et il s'appelait, il avait le même nom.
Renegade
juste.
Ouais, il me semble. Ouais.
D'accord.
Alors c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué de par déjà sa difficulté, comme très souvent. Mais moi et mon frère, on a réussi à le finir.
C'était plus toi ou plus ton frère en fait?
Ben à deux parce que seul. Bon, il était souvent meilleur que moi parce qu'il a quoi 3 ans de plus que moi. Mais maintenant j'arrive à le finir tout seul. Mais pas.
Bravo. C'est bien, Guy, tu es grand.
Non, mais, c'est très difficile. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Non mais moi je fais juste une petite parenthèse parce que souvent on critique les jeux vidéo. Mais ça fait plusieurs émissions à chaque fois où on a un peu la même anecdote où on dit qu'on joue avec nos frères et sœurs. Et c'est vrai que encore aujourd'hui on voit des enfants jouer ensemble et comme quoi il y a quand même ce côté positif là.
Mais je suis un peu d'accord. C'est les seuls moments où je me tapais pas dessus avec mon frère, c'est quand on joue ensemble le jeu vidéo.
Ouais.
J'aimerais en profiter pour en rebondir que oui, le jeu vidéo justement, ce n'est pas que des choses de geek, ça a aussi un côté familial.
Exactement.
Qu'on en a déjà abordé à plusieurs fois et là je pense qu'on vient tous de prouver de manière unanime que ça peut aussi être ça.
Tout à fait. Ouais. Même des fois on pouvait jouer avec ses parents aussi.
Mais des fois on se tapait dessus mais c'était dans le jeu sans faire exprès, tu sais.
Dans Double Dragon ça, c'est bon ça.
On pouvait pas enlever l'option. Du coup, fais gaffe, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vas nous empêcher de finir le jeu.
Et après les mecs ils s'amusent juste à se taper entre eux, ils s'en foutaient des ennemis.
Donc en fait c'est un jeu qui comporte 5 stages. Il y a différents coups et armes, il y avait une arme par stage. Alors, il y avait un principe très original. C'est qu'il y avait genre 2-3 ennemis différents par stage. Et ces ennemis, on les retrouvait pas dans les autres stages, contrairement à un Double Dragon, où c'est souvent les mêmes ennemis. Mais donc là, c'était des ennemis qui étaient propres à chaque stage.
Ok.
Voilà. D'ailleurs, une arme par stage. Donc on commence dans un garage, une espèce de grand parking avec un ascenseur. Il y a un mec qui te fonce dessus avec la moto. Et ils ont repris ça dans Street of Rage plus tard et dans d'autres beat 'em all. C'est devenu un grand classique d'ailleurs, les motos. Hein. Il faut faire un saut du dragon. Alors saut du dragon, il faut faire haut et appuyer sur le bouton. Comme ça, il saute, il donne un coup de pied. On peut le faire en diagonale, comme ça, il avance en même temps. Voilà, les autres coups, les coups points classiques. Si on donne des coups de poing, on enchaîne une personne. On fait avant, il peut l'enchaîner ensuite avec des coups de genoux dans les roubignoles. Même les femmes, parce que second stage, c'est avec des prostituées. Il y a un Mac aussi avec son revolver. Alors, tu peux leur donner des coups aussi. Ensuite,
c'est normal, c'est des méchants.
Ouais, tu peux leur donner coup de poing quand ils sont au sol, si tu fais bas et que t'appuies sur le bouton, quand ils sont couchés au sol. Bon, il faut les mettre plusieurs fois au sol, sinon ils te repoussent et tu
tombes. C'est bien pensé, parce que pour les jeux de l'époque, je crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux où justement dans des beat'em all comme ça, tu peux encore taper les gens au sol.
Ouais.
Donc pour la peine, je trouve ça bien pensé, ce jeu-là.
Ouais, c'est tellement agréable d'être vicieux, pouvoir taper au
sol. Et tu les tues plus vite. Et c'est très important, parce que le temps était super limité. Si tu perds au niveau du sang, tu perds une vie. Et une vie, c'est quand même très important dans ce jeu où elles sont, tu commences avec de vie, tu peux en gagner avec des points. C'est quand même important de ne pas en perdre. Deuxième stage, donc il y a le Mac qui vient avec son pistolet. Alors quand t'es encadré par deux prostituées, il vient, il tire et il se prend une balle, elle meurt direct. Bon, si tu te la prends, tu perds une vie, c'est assez lourd quoi.
D'accord, et donc en gros, tu peux te servir des attaques des adversaires.
Elles te protègent.
Ouais, donc les ennemis peuvent se tuer entre eux, c'est pas mal.
Ça, c'est bien ça. Parce que j'ai jamais été autant frustré que dans les jeux où t'as les ennemis qui donnent un coup, toi t'es touché, l'autre ennemi qui est à côté, il a rien quoi. Genre, c'est pas du tout réaliste quoi, je veux dire. C'est comme s'il y avait un gars qui se baladait avec un. Comme s'il y avait un gars qui se baladait avec un katana, donnait des coups partout, mais il touche tout le monde sauf ses potes quoi. Donc, bon, je sais pas ça.
Pour désinhiber ta frustration, Lionel, je dirais que j'ai vu des super players se servir du fait que les ennemis peuvent se taper entre eux pour faire des scoring de malade, c'est-à-dire que eux ils se planquaient dans un safe spot, ils accumulaient des masses d'ennemis autour d'eux, et en fait ces ennemis-là se tapaient entre eux, et donc du coup ils faisaient du score avec des ennemis qui butaient des ennemis, mais eux ils étaient juste tranquilles quoi.
Pas mal. Ouais.
Voilà, ça existe aussi, c'est rigolo.
Alors, je crois que dans le scénario du jeu il y a un truc un peu bizarre, c'est que votre frère était kidnappé par Mr. Big, le grand méchant.
C'est pas une femme.
Mais attends, il était kidnappé, mais tu peux jouer à deux. Alors l'autre, c'est pas ton frère. C'est un peu bizarre.
C'est ton demi-frère.
Tu peux avoir trois frères.
Ouais, peut-être.
Ah ouais, c'était triplé.
Pour une fois que c'est pas la nana qui se kidnappait, la sœur ou la copine.
La banane.
Alors, il a emmené votre frère, il retient prisonnier dans le nord de la ville, dans Big Pigland. Ça veut dire, en gros, la grande porcherie.
Ouais, soit.
Bon. Je dis jeu de mots en tout cas.
Allez, on va passer au troisième niveau. Troisième niveau, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait un parc. Alors bon, il y a pas de passants, hein. il y a juste des malfrats.
Oui, bah.
C'est ça, des loubars à l'époque.
Belle image des parcs.
Oh, il y a des loubars, il faut les taper et tout. Tu dirais des grammes maintenant. Bon. Ouais, là il y avait aussi deux personnages différents. Il y avait ceux qui donnaient des coups de boue, les coups de poing et qui pouvaient te tenir ligoté pour que les autres y frappent. Et il y avait ceux qui donnaient des coups de poing mais qui faisaient aussi le saut du dragon, il fallait se méfier. Et il y avait des battes de baseball. À l'époque, je disais que ça ressemblait à une mitraillette bleue. En fait, c'est une batte de baseball.
Donc. Ouais, non, mais le nombre de choses comme ça dans les jeux vidéo où on a l'impression que c'est quelque chose, et en fait, quand on rejoue plus tard, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ce que je pensais.
Là, je pense je vais soulever un truc énorme. Dans Street Fighter 2, les voix digitalisées, quand vous étiez gamin, qu'est-ce que vous entendiez ?
Alec Fou !
Moi, j'entendais Apple Pie à la place de Tiger Uppercut, déjà, c'est énorme. Je le reconnais entièrement.
Humpleman.
Voilà, il y a des trucs énormes. Je veux dire, voilà, les voix digitales d'époque, des fois. Maintenant, ça nous paraît normal, mais.
Ouais, encore maintenant, des fois, t'as déjà des fois du mal encore à savoir ce qu'il raconte exactement. Non,
Street Fighter 1 est sorti sur Amstrad. Et le 2 a failli sortir aussi sur Amstrad.
Mais et il y avait des voix digit rigolotes ou pas ?
Non, pas de voix digit. Pas de musique non plus. C'est trop poussé.
Bah oui, parce qu'on a parlé du son, de l'image, mais on n'a pas parlé du son, c'est vrai ?
Ah, le son était bien. Bah, on fait passer des musiques, c'est pour
musique,
ça.
Ah, oui, non, mais quelques... je veux dire, par rapport aux voix des personnages.
Il y avait quelques voix digitalisées, comme dans Robocop, mais c'est très rare.
D'accord.
Ça prenait beaucoup de place, le son prend beaucoup de place sur le disquette. Bon, on va passer au troisième jeu, Opération Wolf. Donc ça, c'est mon tout premier jeu. Si vous avez suivi notre émission, j'avais déjà dit.
Premier
jeu.
C'est vrai qu'on avait déjà chanté, c'est vrai.
Alors c'était un jeu interdit au moins de 12 ans à l'époque, ou déconseillé si on veut.
Ah, t'étais hors la loi à l'époque alors.
C'est si on veut. Ah c'est vrai ça, j'ai même pas pensé. Mes parents ils ont pas tilté, moins de 12 on l'achète pas. Donc c'était nouveau un shoot'em up
concert avec la cible.
Non non, l'a acheté légalement celui-là.
Ouais c'est ce qu'on dit.
J'aime bien le celui-là.
Donc développé par Taito, édité par Océan déjà à l'époque. Hein. Donc sorti en fin 87. Les musiques de Jonathan Dune, Opération Wolf. Programmeur c'est Andrew Dakin. Graphiste Ivan Horn. Ils ont fait à trois le jeu. C'est une adaptation de l'arcade. En arcade, sur les bornes, on pouvait jouer à deux et on avait les vrais Uzi. Oui, tiens, c'était mieux, forcément.
Eli, il y a un truc que j'aimerais te demander, parce que quand j'ai fait des recherches sur l'Amstrad, j'ai remarqué qu'en fait, c'était une machine qui a été hyper populaire en Europe, qui a très bien marché en Angleterre et en France. Ouais. Elle n'a pas du tout été commercialisée au Japon. Une source, peut-être aux États-Unis pour une version, mais moi, personnellement, je n'y crois pas. Et quand j'ai regardé la liste des jeux qui existent sur l'Amstrad, il y a plein de portages de jeux japonais ou arcade. Et donc, je me demande... Pourquoi les Japonais, à ce moment-là, ils ont donné les licences, où ils se sont dit, tiens, on va le développer sur cette machine-là, qui est en fait sur un marché hyper restreint en Europe, alors qu'il y avait plein d'autres micro-ordinateurs sur lesquels ils étaient peut-être plus forcément à l'aise, comme le MSX, comme l'Atari ST, et qui étaient aussi ailleurs, quoi.
Alors pour répondre à la question, il y a beaucoup Sega qui, dans le coup, qui avait une mainmise sur le marché des bornes d'arcade.
Ouais.
Et donc ils se sont dit, on va aussi en mettre sur Amstrad, parce que ça devait vendre. À l'époque, le micro-ordinateur s'est beaucoup vendu, enfin pas trop mal, parce que justement il était accessible. Et donc il y a beaucoup de gens qui l'avaient, donc ce marché était intéressant.
Je sais que le marché est en pleine expansion, mais moi ce que j'ai du mal à saisir, c'est en quoi ils se sont dit, tiens, ok, d'accord, on va prendre un autre éditeur, ils vont prendre notre jeu, ils vont le porter, ils vont le mettre dessus, puis voilà.
Je pense qu'il y avait une architecture, enfin les machines de l'époque tournaient quand même sur une architecture très proche les unes des autres, et malgré le fait que les périphériques ou que les disquettes ou les ou certains certaines programmes ma méthode de programmation était peut-être pas forcément les mêmes, à mon avis il y avait une facilité d'adaptation, et puis bon les codes devaient pas être non plus énormissimes, hein, ça tenait sur quelques kilo-octets, donc je pense qu'à mon avis il devait avoir une quand on voit le nombre de jeux qu'il y a sur Amstrad et qu'on voit que pratiquement tous ces jeux en quasi intégralité se retrouve sur les autres micro-ordinateurs ou consoles de l'époque, je pense que devait y avoir quand même une certaine facilité à adapter le programme d'une version à l'autre.
Alors pour revenir au jeu, il y avait différents ennemis, les 6 tableaux, parce qu'on disait des tableaux à l'époque, on pouvait dire des stages aussi, mais c'est un vieux terme, ça s'est un peu disparu.
On le retrouve plus trop.
Ouais. Tableau, ouais.
Il y avait des militaires dans les coins, il y avait des automitrailleuses, au second stage il y avait des bateaux, sinon il y avait des hélicoptères, il y avait des petits Rambo. Il y avait des otages, il fallait pas shooter les otages. Et quand ils passaient, si vous n'avez pas tiré dessus, ils vous disaient thank you.
Le geek de guerre a parlé.
Il y avait des options qui tombaient du ciel, alors de l'énergie, des compteurs de munitions, il y avait des dynamites. La dynamite, ça faisait tout péter à l'écran, y compris les otages, donc des fois fallait éviter. Et à la fin du jeu, il y avait le président des États-Unis de l'époque qui nous disait merci. Et en fonction des otages qu'on avait plus ou moins tués dans la version arcade, il est content ou pas.
Ouais, oui.
Ronald Reagan, je crois.
Tu te fais remonter les bretelles si tu dis trop de monde.
Vous avez tué tous les méchants, c'est bien, hein. Mais vous avez quand même tué tous les otages aussi, c'est moins bien. Il va pas être élu. Hein. J'ai encore un peu de temps pour vous parler de Rick Dangerous. Donc c'est un jeu qui est sorti en 89. Qui a été fait par Core Design, qui ont fait quoi comme jeu ?
Tomb Raider,
exactement. Donc en fait, c'était un plagiat d'Indiana Jones.
Ah, décidément, ils aimaient bien ça.
Ils ont pas eu la licence, donc ils ont plagié. Donc le personnage ressemble, les mondes ressemblent, il y a aussi un rocher qui vous roule après, tout ça. Et après, ils sont passés à Tomb Raider, dans un même genre. Voilà, il y a 4 stages, très difficiles, avec des nazis et tout ça.
Ouais, donc c'est vraiment la repompe mais absolue des Indiana Jones, quoi.
Ah, tout à fait. Ils ont tout repompé, hein.
Ouais, pas mal. Ouais.
Le jeu était tellement difficile que t'avais le choix au début d'avoir munitions et bombes infinies et vie infinie aussi.
Ah ouais, d'accord.
Ou pas.
Ou pas.
Eh bien, on va continuer nos fouilles archéologiques que musicales. On va écouter Arkanoid et on se retrouve ensuite pour la fin de notre émission.
M55. Un maximum de musique.
Un maximum de musique.
M57 Radio.
Hits and Move.
Hits and Move.
Génération Prestart. Génération Prestart.
Voici déjà venue l'heure de notre reload et je crois que Lionel a des questions auditeurs.
Et oui, tout à fait. Comme chaque semaine, notre fidèle auditeur Alex...
Notre fidèle questionneur.
Questionneur, ouais. Auditeur et questionneur, Alex nous a posé quelques questions. Alors, bon, je tiens quand même à préciser que, bon, Alex est le seul à participer pour l'instant.
C'est pas vrai.
On a eu d'autres questions. Mais c'est quand même notre principal et on aimerait bien que les gens qui nous écoutent viennent un peu. Bah, vous pouvez venir sur le forum.
Parce que sinon, on va être obligé de payer Alex après. C'est pas possible. On est bénévole, donc c'est pas possible.
Voilà, donc après on va devoir lui verser des royalties et tout.
Non mais surtout les gens ils vont croire que c'est on prend que ces questions à lui alors que non.
Voilà, pour l'instant c'est vrai qu'on aimerait bien avoir des retours, donc vous pouvez aller sur www.forumtryagain.com nous poser des questions. Il suffit pour ça de s'inscrire et en même temps vous bénéficierez aussi de
des podcasts, de toutes les photos qu'on met. Alors on n'en a pas des milliers des cent pour l'instant, mais pour voir un petit peu le studio, l'ambiance et tout ça, voilà. c'est tout bonus pour vous.
Et vos charmants présentateurs et tout.
C'est vrai, ils sont beaux, venez les voir sur le forum.
Il y aura même des photos de nus avant la fin de la saison, mais seulement pour ceux qui sont inscrits de longue date.
En section privée.
Donc voilà, donc une question.
C'est parce que vous parlez tout le temps de bites,
pour ça. De bites, pour être précis.
L'Amstrad possède-t-il une mascotte? Et si oui, existe-t-il un jeu qui lui est dédié? Alors. Bah, en effet, Amstrad a, à mon sens, non pas une, mais deux mascottes.
Ouais, ouais. Lesquelles?
Deux.
Lesquelles?
Alors, dans un premier temps, enfin même, on pourrait même dire trois. Parce que
il y a un duo.
Il y a un duo, mais dans un premier temps, le duo, il a été, c'était pas à l'origine. Donc, dans un premier temps, ceux qui se souviennent de cette époque se rappelleront peut-être du fameux crocodile Amstrad,
oui,
qui apparaissait sur les publicités et qui représentait donc la marque commercialement. Donc,
c'est pas Lacoste.
Ce dernier n'apparaît dans aucun jeu, mais reste l'icône de la marque au point que. D'après mes souvenirs de geek, anecdote personnelle. Moi, j'avais une série de livres comme ça. Je crois que c'était de la Bibliothèque Verte. Où dedans, il y avait le crocodile Amstrad, qui était un des héros du livre en question.
C'était Monsieur Crocodile.
C'était une Bibliothèque Verte avec un héros Amstrad.
Exactement. Ouais.
Mais si j'avais su.
C'est collector, ça, aujourd'hui.
C'est collector. Et franchement, je sais pas si mes parents les ont gardés, mes bouquins, ça m'étonnerait, mais.
Fais un marché aux puces pour les retrouver.
Ouais, franchement, ceux-là, s'il y en a qui sont au courant.
T'es sûr que c'était le crocodile de Amstrad?
Bah, c'était le crocodile d'Amstrad, c'était pile l'époque et la période et tout.
Incroyable.
Sa phrase favorite, c'est Amstrad, le mordant informatique.
Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc,
il s'en assomme dans son micro, t'as pas été content.
Donc, ce dernier, donc crocodile, n'apparaît dans aucun jeu. Donc, mais par contre, il aura le droit aussi à un show télé d'une dizaine de minutes sur France 3 le samedi soir. À 20h25, juste en prime time, donc juste avant Sam Dynamite, à la fin des années 80, vers les années 89. Exceptionnel. Wow. Et donc, c'était fait par le créateur du Muppet Show, et aussi d'une part ailleurs sur Canal, avec les guignols et tout ça.
Ben, samedi, je regarderai la télé.
Qui faisait les animations des marionnettes, en fait. Et donc, il y avait deux crocodiles qui étaient donc plus ou moins les représentants d'Amstrad, et qui faisaient une émission sur une petite émission de 10 minutes sur les jeux vidéo.
Sympa, pour l'époque c'est pas mal. Hein.
Extraordinaire, n'est-ce pas?
Ouais. Ah ouais. Ça rappelle un petit peu ce qu'on avait avec Donkey Kong, où ils ont fait la série de la version télé pour les enfants. Quoi.
C'est ça, c'est exactement le même genre, sauf que c'était avec des marionnettes et tout. Donc c'était quand même.
De Croc Vacances.
Pour montrer un peu.
Oui, c'est vrai que c'était la mode, beaucoup des marionnettes. Il y avait Croc Vacances, il y avait le chat avec l'autruche,
Téléchat.
Donc c'est vrai que c'était très à la mode.
Et ça montre un peu quand même la fureur qu'il y avait autour de l'Amstrad et tout ça à l'époque, dans ces fin des années 80 quand même quoi. Donc la deuxième mascotte moins connue, à part pour les grands fans d'Amstrad, il s'agit de Roland, donc un personnage qui prendra différentes formes dans les jeux, dans des jeux tout en temps différents les uns que les autres, tels que Roland Aoi, à pas confondre avec Yaoi, n'est-ce pas ?
Merci.
Donc dans lequel c'est une espèce de pirate. Il y a Roland Ghost Digging. Ou dans lequel il incarne une espèce de mineur, un gars avec une pelle en tout cas. Il y a Roland in Space et Roland in Time. Alors c'est marrant donc parce que dans les deux jeux il y a une espèce de, c'est des jeux d'aventure et il y a une espèce de cabine téléphonique. Ça m'a un peu fait penser à Doctor Who, je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais donc il y a une espèce de le personnage peut se travailler, enfin se travailler selon le jeu, soit à travers l'espace, soit à travers le temps, en se mettant dans ces espèces de cabines téléphoniques.
Ah bah oui, c'est
de même une petite analogie aussi à
Day of the Tentacle.
Donc bon, après est-ce que c'est plutôt les jeux qui sont sortis plus tard qui ont fait des références à ça?
Allez savoir.
Sûrement quoi. Donc Roland in the Caves, avec une pochette un peu bizarre d'ailleurs.
Où, qu'est-ce qu'il fait dans sa cave?
C'est une grenouille.
Ah ouais, d'accord.
Et Roland Garros.
Laisse tomber quoi. Et Roland in the Rope, et je crois que j'en oublie un, mais bon, c'est pas. Voilà, plein de petits jeux dans lesquels Roland apparaît, et puis après, on n'en a plus jamais entendu parler. Bon, faut dire que c'était pas un personnage très charismatique, étant donné qu'il change d'apparence, il change de forme,
il
change
pas très
de. Il change. Enfin, voilà, il change d'un épisode à l'autre. Il n'y a pas vraiment de charte graphique qui représente le personnage Roland, mais il apparaît quand même comme tel, et c'est le nom du jeu qui est quand même comme ça, donc c'est bizarre. Voilà, donc une autre petite question, quelle licence ou style de jeu ont survécu depuis l'époque Amstrad?
Alors là, il y en a toute une flopée qui ont survécu plus ou moins longtemps, à commencer par Prince of Persia, qui était vraiment bien réalisé sur Amstrad. Il y a eu R-Type, alors la série d'R-Type, elle a continué sur diverses consoles, hein. D'ailleurs, sur Super Nintendo, on en voit plusieurs aussi.
Il y en a eu deux.
Ouais.
Super bon, enfin, R-Type, R-Type 3.
Pour dire en gros, quoi, de toute façon, je pense que les styles de jeu en question, je sais pas, de l'aventure, l'action, la plateforme, le puzzle game et j'en passe, tous ces styles ont vu le jour sur ces premières générations, enfin sur ces générations de consoles et sont développées, ont évolué sur ces consoles. Donc je veux dire après, certaines ont évolué, sont restées dans le domaine de la 2D par exemple, ont pas forcément énormément évolué. Je veux dire les puzzle games, bon,
mais Tetris déjà à l'époque.
Voilà, Tetris, bon, ça évolue, mais ça reste ce qu'on connaît. Après, bah d'autres concepts comme les jeux d'aventure qui ont évolué en 3D.
Évolué quand même.
Évolué, mais on reste quand même avec une vue plus ou moins standard. Après ça reste du puzzle
3D
game, quoi.
Et tout, enfin,
il y a eu des puzzle games 3D, c'est vrai que les puzzle games c'est pas ça forcément qui est le plus marquant, je veux dire, enfin, comment expliquer ça.
Les Double Dragons aussi qui sont apparus sur Amstrad, entre autres adaptation de l'arcade à chaque fois.
Pour les grosses licences, je pense justement que c'est les jeux d'action comme Eddie Park,
Double Dragon, on en a plus trop entendu parler ces derniers temps quand même.
Ouais, non, la licence est morte depuis Double Dragon 5 à ma connaissance, mais bon voilà, ça a quand même, il y a quand même eu, je sais pas, une bonne flopée d'épisodes, ça a marqué.
Alors les Grisors, c'est les contrats ou les Protector. Hein. Le premier Grisor était justement aussi sorti sur Amstrad.
Donc voilà, il y en a quand même pas mal.
Ah, énormément.
C'est marrant parce que pour la version Amstrad, ils ont conservé le nom japonais, à savoir Grisor, alors que pour les autres portages, ils ont mis le nom Probotector européen. Quoi.
Ouais. Et Donkey Kong, Mario Bros, il y en avait déjà un sur Amstrad.
Il y en a juste encore des questions.
Ouais, non, c'est bon pour les questions. Maintenant, je voulais vous parler un petit peu d'Amstrad sur le marché des consoles de jeux à proprement parler, puisque bon, on a parlé d'Amstrad sur le marché des micro-ordinateurs. Et donc, dans le courant des années 90, fin d'année 80, de 1990, la société Amstrad donc sent bien que le marché du jeu vidéo est en train d'évoluer et puis de scinder clairement avec d'un côté les consoles de jeux dédiées uniquement aux jeux vidéo et d'autres les compatibles PC qui commencent à arriver tout doucement sur le marché, qui permettent de multiples activités qui sont un peu plus évoluées que les micro-ordinateurs qu'on avait
qui deviendront 80, les PC qu'on a aujourd'hui.
Voilà, qui deviendront les PC qu'on a aujourd'hui. Et donc Amstrad tente en fait ce que certains qualifieront de manœuvre désespérée, parce que bon, ça s'est pas forcément passé comme ils le voulaient, en fait de recycler leur CPC Plus dans un modèle de console qui est livré donc sans clavier ni écran, mais avec donc deux manettes de jeu à un prix de 990 francs, ce qui en fait une console bon marché pour l'époque où c'est sorti par rapport à la concurrence, donc elle est plutôt bien située. Mais en fait avec une console 8 bits qui commence un peu et une architecture qui certes, si elle est un peu plus puissante, enfin permet peut-être des graphismes un petit peu plus poussés peut-être que sur NES, et encore,
contestable.
C'est très contestable et clairement dépassé par rapport
à la
Mega Drive qui arrive à la même période.
Oh là là,
ouais. Donc mauvais choix ou choix trop tard.
Et la NEC aussi d'ailleurs qui est arrivée à la même période, NEC qui est arrivée avec la TurboGrafx aussi plus ou moins au même moment, et bon
la PC Engine était déjà là aussi avant.
La PC Engine,
la concurrence est rude. Hein.
Donc la concurrence est rude et en fait avec la Mega Drive et la TurboGrafx, on a des la Mega Drive est une vraie 16 bits et par contre la TurboGrafx c'était une fausse, il me semble. Enfin, il me semble qu'elle était elle avait un processeur graphique 16 bits mais
tu
une,
parles de quoi du VX4000 de Amstrad?
Non, je te parle de la TurboGrafx.
Ah, la TurboGrafx, je la connais pas assez.
Ouais, donc bon, enfin bon, bref. Tout ça, par contre, la GX4000 était encore une console 8 bits, quoi. Voilà. Et bah, du coup, elle a été. Et le fait aussi, à côté, Sega, avec des moyens colossaux pour faire développer des jeux, quand même assez énormes. Comparé à Amstrad, qui était obligé de récupérer un peu les jeux. De... Bon, bref, c'était ça rendait pas terrible et puis ils sont finis avec un petit en 91, c'était déjà fini,
au
même pas un
mois,
an plus tard.
Au bout de 6 mois, ils avaient baissé le prix d'un tiers quasiment. Ouais.
Et la console s'est retrouvée avec un panel de jeux de 25-27 jeux, c'est contestable par rapport à ce que certains disent.
Ah, c'est triste.
Donc seulement 27 jeux sur la console est morte née quoi. Et à peine 15 000 preneurs en France je crois pendant la période de Noël, enfin bon c'était carrément en deçà des trucs
malheureusement destin funeste et puis moi aussi j'ai quelque chose à vous annoncer, c'est qu'on approche de la fin. On a bien passé un très bon moment ensemble mais malheureusement on doit se quitter. On se quitte pas complètement puisque vous pouvez continuer les débats et apprenez-nous aussi vous aussi des choses sur notre forum et puis comme promis on se quitte avec le remix de Target Renegade et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur les chevaliers de Baphomet avec un invité
mystère.
Surprise.
Ouais. On a encore
bisous
le temps pour
tous.
Le CG code.
Ah ouais, CG code,
CG code c'est CPC.
En voilà. Plus il est tout simple à retenir donc n'hésitez pas. CPC.
Voilà.
Bisous à tous.
Jouez bien la semaine prochaine.
Ciao.
Bye bye les enfants.
M57 Radio.
M57 Radio.
M57 Radio. Avec culturegames.com. Game over.